De 1576 à 1580, sixième et septième guerre de religion. En décembre 1576, les États généraux sont réunis, où l'autorité du roi est remise en cause, de sorte que cette assemblée décrète en janvier 1577 que la paix de Monsieur est rompue et que la religion réformée est supprimée. Bientôt, Damville et le frère du roi, qui a finalement obtenu la dotation territoriale qu'il désirait, regagne le parti catholique. Deux nouvelles guerres vont ensuite se dérouler, limitées au Languedoc, la sixième et la septième. La sixième guerre commence en avril 1577. La ville de Montpellier en fait les frais. Prise par les protestants, sa citadelle est rasée. Les catholiques en font ensuite le siège. Mais la paix est signée à Bergerac le 17 septembre. Elle reprend les conditions de l'édit de Beaulieu en atténuant les avantages des protestants. La septième guerre porte le nom de « guerre des amoureux ». Pourquoi ? Eh bien parce que, à Nérac, où vit la cour d'Henri de Navarre, les affaires amoureuses vont bon train. Henri fait tourner la tête des filles d'honneur de sa femme, Margot, qui n'est pas en reste et fait tourner la tête de bien des hommes. Henri III, qui entend parler de cette pagaille amoureuse, s'en moque devant qui veut l'entendre. Mais sa sœur Margot l'apprend et s'en vexe. Elle pousse ses amis à exciter leurs hommes contre le roi Henri III. Et voilà pourquoi la septième guerre de religion a eu lieu, et elle s'appelle la guerre des amoureux. C'est aussi navrant que cela, parfois. Le 26 novembre 1580, François d'Alençon négocie la paix de Fleix. Les protestants s'en tirent fort bien. De plus, les négociateurs ont prévu une trêve de 6 ans. Une trêve qui ne va pas durer 6 ans. On s'y attend. La huitième guerre est en marche.
Quand Margot, ravissante, élancée, élégante, brune, mais portant une perruque presque rousse, la mode était au blond. Margot, la reine Margot, l'épouse d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, n'a pas son pareil pour séduire et faire chavirer le cœur des hommes. De plus, elle est cultivée, écrit des vers, des nouvelles. Ses liaisons amoureuses ne se comptent plus. On prétend même à l'époque que le bel Henri de Guise, le catholique, ferait partie de la liste. Ah, trop, c'est trop. Elle est exilée à Nérac, en Navarre, à la cour de son mari. Là-bas, elle se lasse d'une vie conjugale houleuse et décide de devenir nomade. Elle se fait recevoir de château en château, jusqu'au jour où, considérant déplacer son comportement, notamment ses frasques amoureuses, la reine la fait placer en résidence forcée à Usson, en Auvergne. Elle y poursuit en toute tranquillité ses excès. Elle divorce en 1599, revient en 1605 à Paris d'où elle avait été chassée. Accueillie à bras ouverts par Marie de Médicis, sa remplaçante auprès d'Henri IV, elle est d'autant mieux acceptée par les Parisiens qu'elle se montre aimable et surtout charitable en toute occasion. Elle perd ses cheveux, ses dents, mais on lui prête encore des aventures galantes jusqu'au jour de sa mort, le 27 mars 1615, avant sa résurrection sous la plume de Dumas au XIXe siècle. Dumas qui lui attribue l'hypocoristique dont nous usons attendris et fascinés. Margot.
Le 10 juin 1584, François d'Alençon, le frère du roi, monsieur, meurt de tuberculose. Aussitôt, les passions se rallument, car Henri III, n'ayant pas d'enfant, la succession est ouverte. Qui peut y prétendre ? Le plus proche parent du roi, Henri de Navarre. Sa grand-mère maternelle est Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Elle a épousé en 1527 le roi de Navarre, Henri d'Albret, de qui elle a eu une fille, Jeanne d'Albret, et Jeanne d'Albret est la mère d'Henri de Navarre. Ainsi, il se rattache aux Valois. Par son père, il est descendant de Robert de Clermont, fils de Saint-Louis. Le cardinal de Bourbon peut, s'il renonce à ses vœux ecclésiastiques, devenir roi. Enfin, Henri de Guise, qui est un descendant de Charles V et qui a demandé à un généalogiste habile de prouver que sa branche remontait à Charlemagne, coiffant sur le poteau les deux autres prétendants.